Bonjour à tous, frères et sœurs. Merci Seigneur pour. Je remercie le Seigneur d'être là ce matin parce que j'aurais pu ne pas être là parce que j'étais malade cette semaine, mais j'ai été relevé puissamment. Voilà. Donc je suis là grâce à Dieu. Et j'ai des choses à vous dire de la part de Dieu. Mais avant toute chose, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2026 du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment en 2026. Amen. Nous allons prier, présenter ce moment au Seigneur. Père de gloire, au nom de Jésus, je te prie de bénir ce message, de bénir ta parole, afin qu'elle soit proclamée fidèlement, afin qu'elle touche nos cœurs. Saint-Esprit, prends maintenant le contrôle de ces moments, afin que nous soyons instruits selon la volonté du Père. Amen. Gloire à Dieu. Le message ce matin s'intitule « Que veux-tu ? Que veux-tu ?» Et nous allons prendre quatre passages dans les évangiles. Quatre textes dans les évangiles. Le premier dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 12 à 15. Luc 17, 12 à 15. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Un autre texte dans l'évangile de Matthieu, cette fois au chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu 8, 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. » Et toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 6, Matthieu 7, verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et un dernier texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 28, Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le message ce matin s'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont venus entendre la parole de Dieu, à toutes celles et tous ceux qui croient dans la parole de Dieu. Et ce message s'adresse personnellement à chacune de ces personnes. C'est un message pour celui qui croit. C'est un message pour celle qui croit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ce matin, nous sommes appelés à écouter et à recevoir le message qu'il veut nous délivrer par sa parole et par sa sagesse. Donc c'est une nouvelle année, et à l'occasion de cette nouvelle année, quelqu'un ou plusieurs ici doivent prendre une décision de changement, une décision de changement profond. Je parle de choses spirituelles. Quelqu'un ici est appelé à ce changement cette année. Il y a des décisions à prendre. Le point commun des personnes que les passages que nous avons lus présentent, le point commun entre ces personnes, c'est qu'elles avaient une grande soif de changement. Il y avait des lépreux qui étaient malades, ils avaient une grande soif de changement. Ils désiraient profondément le changement. Voilà pourquoi ils appelaient Jésus. Voilà pourquoi ils criaient à Jésus, car ils avaient une grande soif de changement. malgré leurs limitations, malgré leurs maladies, malgré la lèpre. Je voudrais parler un petit peu de la lèpre. Vous connaissez la lèpre, on en parle beaucoup dans la Bible. C'est une maladie qui est souvent citée dans la Bible. On en parle, je crois, dès le livre de l'Exode et jusque dans les évangiles. Donc c'est une maladie très présente dans toute la Bible. Et c'est une maladie qui existe encore de nos jours, même si elle est peut-être moins répandue ou un peu plus contrôlée, mais elle existe encore. C'est une maladie très particulière, c'est une maladie très douloureuse, une maladie infectieuse, une maladie contagieuse, c'est une maladie chronique, c'est une maladie proche de la tuberculose, une maladie qui touche les nerfs, qui touche la peau, qui touche les muqueuses, qui ronge, c'est une maladie qui ronge les tissus et qui provoque des infirmités sévères. La lèpre provoque des infirmités, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie mortelle. Et au temps biblique, cette maladie était très présente. Spirituellement, la lèpre, c'est le péché. Spirituellement, la lèpre, c'est le péché. Ça correspond au péché. La Bible nous parle de la lèpre, mais dans la Bible, la lèpre est aussi synonyme de mort, synonyme de chute de l'homme, synonyme du jugement de Dieu. Car le péché ronge comme la lèpre. Si tu fais un songe dans lequel tu te vois lépreux, peut-être que Dieu veut te révéler ton péché. Spirituellement, la lèpre, c'est le péché. Et comme la lèpre tue l'homme, le péché tue l'homme. La finalité du péché, c'est de tuer l'homme. Comme la lèpre isole les hommes, les sépare, parce qu'il fallait se séparer quand on avait la lèpre, le péché sépare l'homme de Dieu. Et comme la lèpre est contagieuse, le péché est également contagieux. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des décisions à prendre. Certains ici ont des décisions à prendre pour arrêter d'être contaminés par cette lèpre, par ce péché. Il y a un enjeu, parce que celui qui est contaminé par la lèpre, il est séparé de Dieu. Celui qui est contaminé par le péché, il est séparé de Dieu. Et à la fin, c'est la mort. Je parle de choses spirituelles. La lèpre, à cette époque-là, c'était une maladie honteuse. Celui qui avait la lèpre, il devait sortir du camp. Quand le peuple était dans le désert, si l'un avait la lèpre, il devait sortir du camp. Il ne pouvait revenir dans le camp que lorsqu'il était guéri. C'est une maladie honteuse. On mettait les gens à l'écart. On mettait les gens en quarantaine. Les gens étaient séparés de leur famille. La famille avait honte de celui qui avait la lèpre. On le rejetait. On le renvoyait. Voilà pourquoi même la guérison divine parfois était difficile, parce que celui qui avait la lèpre était séparé de ceux qui pouvaient prier pour lui. Alors quand l'un était guéri, avant de revenir dans le camp, il devait se montrer au sacrificateur. Et le sacrificateur devait constater la guérison. Mais le sacrificateur n'avait pas le droit de toucher. Les hommes saints, les hommes consacrés n'avaient pas le droit de toucher le lépreux. Ils pouvaient le regarder, mais ils n'avaient pas le droit de le toucher. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est venu et qu'il a commencé à s'approcher des lépreux, à toucher des lépreux et à guérir des lépreux, beaucoup d'hommes ont été très étonnés. Et même beaucoup d'hommes ont été choqués de voir que Jésus pouvait s'approcher, pouvait venir toucher des lépreux. Une maladie si contagieuse, si réputée, mortelle. Beaucoup ont été choqués de ça. Et bien aimé, ce matin, je vous dis que nous avons un Seigneur qui n'a pas peur de s'approcher de chacun de nous, de toucher nos maladies, quelles que soient nos maladies, quels que soient nos défauts, quels que soient nos péchés. Nous avons un Seigneur qui n'a pas peur de s'approcher, qui n'a pas peur de nous toucher pour nous guérir. Amen. La Bible nous parle des lépreux qui criaient quand ils voyaient Jésus. Ils criaient pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Quand Jésus venait, il déplaçait des foules. Mais les lépreux, eux, ils devaient se tenir à l'écart. Vous imaginez la frustration ? Ils étaient là, tenus à l'écart. Ils savaient que Jésus passait non loin. Ils savaient que Jésus était une chance pour eux de voir leur vie transformée, de voir la guérison, mais ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Vous imaginez ? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils criaient. Ils criaient à Jésus. Ils appelaient Jésus. « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, fils de David !» Ils criaient comme ça. En fait, ce qu'ils faisaient en criant, c'est de manifester leur profond désir de changement, leur profonde volonté de changement. Et dans les exemples que nous avons lus, c'était tellement sincère. Le cri était tellement sincère. Le désir de changement était tellement profond que Jésus est venu jusqu'à eux. Amen. Pourquoi Jésus attendait-il que les malades crient ? Jésus aurait pu deviner, il était parfaitement capable de deviner qu'à tel endroit il y avait un lépreux qui avait besoin de lui. Mais pourquoi Jésus les laissait-il crier à lui ? Je crois que Jésus a besoin d'entendre notre cri. Je crois que Jésus a besoin d'entendre notre volonté de changement. Je crois que Jésus a besoin d'entendre notre profonde volonté que les choses changent véritablement en nous, que des changements profonds s'opèrent en nous. Je crois qu'il a besoin d'entendre que nous avons cette foi-là, de croire qu'il peut nous changer, qu'il peut tout solutionner, qu'il peut nous guérir en un instant. Je crois qu'il a besoin d'entendre cela de nous. Il est écrit, nous l'avons lu, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Avant de nous donner une guérison, une libération, une délivrance, il veut savoir si vraiment cette volonté est sincère en nous. Si nous ne ferons pas comme certains lépreux qui, après avoir reçu la maladie, sont partis, n'ont pas remercié, ne sont pas revenus et l'ont abandonné et l'ont rejeté. Je crois qu'il a besoin de sentir en nous cette volonté, ce désir pur de changement, cette foi. Il y a une chose, mes frères et mes sœurs, qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne peut pas nous amener au ciel sans notre volonté. Il ne le fera pas. Dieu n'amènera pas la réussite ou le succès dans notre vie si nous ne le désirons pas, si nous ne coopérons pas, si nous ne travaillons pas avec lui à cela. Il ne le fera pas. Il ne nous l'imposera pas. Il ne fera rien sans notre accord, sans notre choix, sans notre décision. C'est pourquoi je dis que ce matin, quelqu'un doit choisir et décider que sa vie peut et va changer. Décider, c'est déterminer ce qu'on veut. Déterminer ce qu'on veut. Et toi, que veux-tu cette année ? Que veux-tu pour 2026 ? Quel est ton désir profond de changement pour 2026 ? Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Est-ce que tu as un projet ferme ? Est-ce que tu as une décision ferme que tu as prise ? Ou est-ce que tu as démarré l'année sans trop savoir, peut-être sans même te poser la question? Toute décision, quand on prend une décision exige de la fermeté. Quand on prend une décision, c'est qu'on a décidé quelque chose et on l'acte et on le met en place. On le fait. Ça, c'est une décision. Ça exige la fermeté, la détermination, la persévérance. Parce que pour que ça dure, il faut aussi de la détermination. Et il faut de la persévérance. Pour prendre une décision, il faut de l'intelligence. Et il faut de la sagesse. Je parle des bonnes décisions. Il faut de l'intelligence et il faut de la sagesse. Mais il faut aussi un ingrédient supplémentaire qu'avaient les lépreux. C'est la passion. Il faut être passionné par ce que l'on fait. La passion accompagne la détermination. Si je ne suis pas passionné par ce que je fais, ça ne durera pas longtemps. Pour persévérer, je dois être passionné. Je ne sais pas si vous arrivez à faire des choses dans le temps dont vous n'êtes pas passionné, mais en général, quand on n'est pas passionné par les choses, quand on se les impose, quand on les vit comme une contrainte, ça démarre bien au début, ça va bien en janvier, ça va un peu moins bien en février, et au mois de mars déjà, il ne reste plus grand-chose. La passion. Les lépreux étaient passionnés par leur guérison. Je ne sais pas si ça se dit vraiment pour une maladie, de dire qu'on est passionné. Mais l'idée, c'est ça, la passion. Ils ont crié à Jésus. Ils avaient cette soif d'entendre la parole de Jésus. Ils voulaient que Jésus vienne, alors ils criaient de tout leur cœur. Ils voulaient vraiment que leur maladie disparaisse. Pour changer, tu dois avoir conscience de ta lèpre. Et quand tu auras conscience de ta lèpre, alors tu pourras profondément désirer ta guérison et ton changement. Qu'est-ce que le changement ? C'est une modification durable, quelque chose qui dure, de qui nous sommes, de notre comportement, de notre attitude, de notre façon d'être, de notre témoignage. Puisque quand le comportement change, c'est qu'intérieurement, les choses ont changé déjà depuis un certain temps. Ce qui est visible, c'est le résultat de ce qui est invisible. Quand vous dites que quelqu'un a changé, c'est parce que le changement a commencé une semaine avant, un mois avant, un an avant. Mais il s'est déjà opéré des choses invisibles qui donnent un résultat visible. C'est un changement tellement profond, ça vous est peut-être arrivé, je vous le souhaite, que des gens vont venir vous voir et vont vous dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne te reconnais plus. Tu as changé. » C'est donc un passage d'un état à un autre état. Comme le lépreux qui était malade, il passe d'une peau rongée à une peau saine. Mais pour vivre le changement, il faut désirer ce changement. La métamorphose que la parole de Dieu peut apporter, que le Saint-Esprit peut apporter, elle passe par le désir, elle passe par cette volonté profonde en toi que ce changement s'opère. Un vrai changement, je le disais tout à l'heure, il est dans le domaine du spirituel. Je peux aller chez le coiffeur, enfin pas moi, mais je peux aller me refaire une beauté, comme on dit, je peux me relooker, je peux faire plein de choses, mais ce n'est pas ça le changement. Ça, c'est superficiel, c'est matériel, c'est de l'apparence. Je parle de choses spirituelles. Est-ce que tu désires profondément ce changement spirituel ? Et l'accepterais-tu ? Accepterais-tu que Dieu, par son Saint-Esprit, t'amène dans une nouvelle dimension spirituelle ? L'accepterais-tu ? La voudrais-tu ? Voudrais-tu la vivre ? Est-ce que tu le désires vraiment, profondément ? Parce qu'il y a une chose, je disais que Dieu ne nous amènera pas de force au paradis, c'est vrai, mais Dieu ne nous imposera pas non plus une nouvelle dimension spirituelle. Il ne le fera pas. Il l'amènera parce que nous sommes prêts à la recevoir, parce que nous désirons la recevoir. Il ne le fera ni par la force, ni par la puissance. Il le fera par son esprit. Amen. Les lépreux désiraient passionnément passer de la maladie à la guérison, recevoir le miracle de Dieu pour leur vie. Et je disais tout à l'heure qu'il faut en avoir le désir. Il faut que ce désir-là naisse en nous. Mais pour que ce désir-là naisse en nous, il faut avoir conscience de notre maladie, de notre lèpre. Est-ce que vous avez conscience de votre lèpre ? Plusieurs certainement m'écoutent et se disent « Mais c'est bien ce qu'il dit, mais je ne suis pas lépreux. Je n'ai pas de lèpre. Je n'ai aucune lèpre. » Mais je vous dis ce matin que tous ici, nous tous ici, nous avons une lèpre. Tous, toutes et tous. C'est quoi une lèpre ? Pour certains, c'est un péché, une addiction, par exemple. La cigarette, l'alcool, les jeux, l'adultère, l'impudicité, la drogue. Il y en a tellement, tellement, tellement. Je ne peux pas tous les citer. Pour d'autres, c'est une incrédulité, un manque de foi. Quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut opérer un changement profond dans sa vie. Pour un autre, c'est une compromission. C'est un chrétien qui n'est ni bouillant, ni froid, mais tiède. Quelqu'un qui, peu à peu, s'éloigne de Dieu. Pour un autre, sa lèpre, ça va être la mondanité. Un chrétien qui aime le monde et toutes les choses qui s'y trouvent. C'est sa lèpre. Pour d'autres, ça peut être la rancœur ou la haine. Je n'ai pas pardonné à des personnes qui m'ont fait du mal. C'est peut-être ma femme, c'est peut-être mon mari, peut-être même mes enfants. Pour d'autres, ça peut être l'envie ou la jalousie. Mon frère, ma sœur a plus que moi. Il a plus d'argent que moi. Il est plus heureux que moi. Il a plus d'enfants que moi. Il a une plus grande maison que moi. Il a une plus belle voiture que moi. Il a plus d'argent que moi. C'est une lèpre. D'autres ont un caractère que tout le monde leur reproche. Tu es lunatique. Tu es discourtois. Tu es méchant. Tu es souvent de mauvaise humeur. Tu fais beaucoup de reproches. Tu ne te remets pas en question. Tu râles. Tu es violent. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le caractère. Tu es replié sur toi-même. Tu refuses de parler aux autres, tu t'enterres dans ton mutisme. Et alors, ce qui se passe, c'est que les relations avec les autres se dégradent et les bonnes personnes qui sont autour de toi s'éloignent Par contre, les mauvaises personnes restent. Ça, c'est une lèpre aussi. Ça peut être une maladie dont tu n'es pas guéri. Un mal, une infirmité, une douleur. C'est aussi une lèpre. Une stagnation sociale. Ton travail n'avance pas, ton entreprise n'avance pas. Tu ne reçois pas la promotion que tu espérais. Tes études sont au point mort. Ça aussi, c'est une lèpre. Pour d'autres, la lèpre, ça peut être dans le service pour Dieu. Dans le service pour Dieu aussi, il peut y avoir une lèpre. Tu as reçu un appel de Dieu, mais tu ne sais plus où tu en es. Et tu es un peu perdu, tu ne perces pas, ça n'avance pas. Bien que tu pries, bien que tu jeûnes, tu te poses des questions. Ton ministère n'avance pas. Et même ce matin, tu écoutes tout cela et tu ne comprends pas et tu doutes. Pour d'autres encore, je vais m'arrêter là parce que la liste peut être très très longue, mais ça peut être dans le couple. Une difficulté dans le couple. Et même plus. Un risque de séparation, de divorce, une famille qui s'effondre, tout ça aussi, c'est une lèpre. Je vous dis que chacune et chacun de nous, nous ramenons en 2026 une lèpre que nous avions déjà l'année dernière. Et c'est vraiment le cas de tout le monde, parce que si tu n'as pas de lèpre, si tu n'as pas de défaut, si tu n'as pas de problème, c'est que tu es parfait, mais je ne connais personne qui est parfait. J'en connais qu'un qui est parfait, et ce n'est ni toi ni moi. Nous avons tous besoin de prendre conscience de cette lèpre pour avoir soif de changement et pour avoir soif qu'un changement réel s'opère dans nos vies. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Chacun a sa vie, chacun a son problème, et même ses problèmes. On en a tous. Mais Jésus, ce matin, nous pose cette question, « Que veux-tu ?» Comme il a posé la question à cet aveugle, « Que veux-tu ?» Et je ne sais pas, mais c'est quand même bizarre que Jésus pose cette question à un aveugle, « Que veux-tu ?» La réponse est quand même évidente. Mais Jésus pose la question, alors qu'il sait très bien la réponse. Je crois que Jésus a besoin de notre confirmation. Il a besoin d'entendre de notre bouche l'expression de ce que nous voulons, du changement que nous voulons, de la guérison que nous voulons. Mais ça, ce n'est possible que si nous avons conscience de notre mal et que nous voulons vraiment prendre la victoire dessus, que nous désirons vraiment le changement. Et ce matin, le Seigneur désire que tu puisses vraiment manifester la foi qui est la tienne, que Dieu peut opérer ce changement, peut opérer cette guérison en toi. Que veux-tu ? Lorsqu'il pose cette question, il sait très bien ce que veut l'aveugle. Mais quand il pose cette question, il n'attend pas comme réponse, « Seigneur, tu sais que je suis aveugle, tu sais ce qu'il me faut, ce n'est pas la réponse qu'il veut. » Et d'ailleurs, vous avez vu ce que répond l'aveugle ? Il lui dit, « Que je recouvre la vue. » Que je recouvre la vue. L'aveugle exprime clairement ce qu'il veut. Il ne répond pas à Jésus, « Seigneur, tu sais ce que je veux. » Il lui dit, « Que je recouvre la vue. » Tu dois payer le prix de présenter ton problème au Seigneur. Tu dois payer le prix de présenter ta lèpre au Seigneur, pour qu'il la soigne. C'est ce qu'il veut, il te le demande. Il veut sentir en toi, il veut entendre en toi ce désir profond de changement. Il veut que tu l'exprimes. Quand il te dit « Que veux-tu ?», il t'amène à exprimer. Il t'amène à dire ce que tu veux. Il t'amène à exprimer ta foi. Parce que quand tu dis ce que tu veux, vous imaginez quand je suis aveugle et je dis que je recouvre la vue, Vous croyez que c'est possible de recouvrer la vue comme ça? Cet aveugle, il avait une grande foi. Il avait une grande foi que Jésus pouvait le sauver. Et voilà ce qui a permis la guérison. C'est la foi de cet aveugle. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Alors je ne sais pas quelle est ta lèpre. Mais si Jésus a pu guérir un aveugle, il peut guérir n'importe quel de nos lèpres ici. Amen. Est-ce qu'il y a des secrets pour vivre le changement? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour vivre le changement? Déjà, je voudrais ouvrir une parenthèse. Là, on en parle parce que c'est le début de l'année. Et c'est vrai que les débuts d'année, c'est des moments un peu propices. On est passé d'une année à une autre, donc on change d'année. Donc c'est un peu le moment favorable, on va dire, pour démarrer de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses qui sont calées au 1er janvier, puisque c'est le calendrier. Mais il faut quand même comprendre que le calendrier, ce n'est pas une invention de Dieu. Dieu n'a pas voulu le calendrier. Sinon, la Bible en parlerait. Mais notre calendrier, nous, avec nos 12 mois et les jours dans chaque mois, il n'a pas été instauré par Dieu. C'est un calendrier qui a été instauré par les hommes. J'ouvre une parenthèse là. Et ça m'amène à dire en fait que nous qui avons ce calendrier, nous le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est un calendrier, je crois que c'est le calendrier républicain. C'est en France, c'est le calendrier qui est en vigueur depuis la Révolution française. Et avant ça, il y avait un calendrier romain. Il y a d'autres calendriers dans le monde. Les Hébraïques, ils ont un calendrier. Les Chinois, ils ont un calendrier. Enfin, il y a plein de calendriers. Il y a même des calendriers lunaires, solaires, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que si le calendrier n'est pas une institution divine, n'est pas une institution de Dieu, c'est que c'est une institution de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le 1er janvier ou le 2 janvier qu'il faut changer. Mais nous, on change tous les jours. Enfin, je crois qu'ici, on prêche quand même tous les dimanches le changement. La nouveauté de vie, le renouvellement de l'intelligence. C'est tous les jours le changement avec le Seigneur. Donc, je voulais le dire quand même, parce qu'on croit que c'est janvier qu'il faut changer, mais on peut changer tous les jours. Si tu n'as pas changé en janvier, tu peux changer en février, et même en mars. Tu peux changer n'importe quand avec le Seigneur. Amen. D'ailleurs, il y a même des changements qui ne se font pas en une année. Il y a des changements, il faut plusieurs années pour voir vraiment le changement profond s'opérer. Donc, quelques conseils pour vivre la transformation et le changement. Alors, je vous les donne humblement. C'est des choses que moi-même j'ai reçues ou que moi-même j'ai mis en place parce que je les ai entendues d'autres personnes, parce que je les ai écoutées d'autres personnes ou parce que je les ai reçues par la parole de Dieu. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Tout ce que je peux dire ne peut aussi ne pas vous correspondre. Le premier conseil, ce serait de comprendre que tu dois toujours faire ta part. Tu as toujours ta part à faire. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Tout ne vient pas de Dieu. Tout ne tombe pas tout cuit. Moi, je ne crois pas dans un christianisme qui voudrait que, quand on se souhaite bonne année, c'est bien de se souhaiter bonne année, il faut le faire. Moi, je le fais. Mais ce n'est pas parce que je souhaite bonne année que ton année va être bonne. Je n'ai pas ce pouvoir. Donc, je crois qu'il faut travailler. Il faut que chacun travaille à son bonheur, travaille à sa bénédiction. C'est la part que nous avons à prendre dans le projet de Dieu pour nous. Bien que Dieu ait créé le ciel et la terre, bien qu'il ait fait tout cela, il a donné à Adam de cultiver la terre. Ce n'est pas Dieu qui labourait, ce n'est pas Dieu qui semait, ce n'est pas Dieu qui récoltait. C'était Adam qui faisait tout cela. Amen. Donc, tu veux la bénédiction de ton travail? Travaille. Travaille, travaille. Et étudie, si tu es étudiant. Si tu es professionnel, travaille. Si tu es étudiant, étudie. Et Dieu fera le reste. Fais ta part. Et Dieu fera le reste. Sois vaillant. Le deuxième conseil, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ne prie pas seulement, mais écoute la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Quand tu pries, écoute la voix du Saint-Esprit. Il te dit ce que tu dois faire. Et il te dit ce que tu dois changer. Mais accepte le changement que Dieu veut pour ta vie. Accepte ce changement-là. Accepte ce que Dieu te demande de faire et tout changera. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit et si tu mets en pratique, tout changera. Fais ce que Dieu te demande. Écoute la voix du Saint-Esprit. Et ne t'arrête pas si tu démarres quelque chose et que ça ne marche pas comme tu voudrais. Si c'est la volonté de Dieu, ne t'arrête pas. Car si c'est la volonté de Dieu, ça réussira. Amen. Troisième conseil, c'est de prendre autorité sur l'ennemi. Parfois, nous échouons parce que nous négligeons le monde spirituel. Nous aimons vivre en paix. C'est bien de vivre en paix. C'est vrai. Mais Jésus n'a jamais été en paix contre Satan. Et toujours pas à l'heure actuelle. Donc il ne faut pas confondre. Il y a des moments où il faut prendre autorité. Il y a des moments où il faut prier et il y a des moments où il faut chasser. Il y a des moments où il faut prier, il y a des moments où il faut chasser au nom de Jésus. Amen. Donc, si dans certaines situations, tu sens une pesanteur spirituelle, tu sens une opposition spirituelle, peut-être qu'il ne faut pas que tu supplies, mais peut-être qu'il faut que tu chasses au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses qui se passent quand on prie au nom de Jésus. Il y a d'autres choses qui se passent quand on chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas la même chose. Dans certaines circonstances, il faut prier au nom de Jésus. Dans d'autres circonstances, il faut chasser au nom de Jésus. Paul n'a pas chassé l'esprit de Python en priant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris autorité. Il a dit « Je t'ordonne ». Il a dit « Je t'ordonne au nom de Jésus ». Amen. Donc trop souvent, nous avons tendance à pleurer. « Seigneur, délivre-moi, Seigneur ». Et nous pleurons alors qu'il faudrait prendre autorité au nom de Jésus. Quatrième conseil, ce serait de s'éloigner des distractions. Être concentré dans tout ce que tu fais pour Dieu. Quand tu sers Dieu, tu sers Dieu. Tu ne fais pas autre chose. Passe du temps dans la présence de Dieu. Si tu pries, tu pries. Si tu jeûnes, tu jeûnes. Si tu lis la parole, tu lis la parole. Mais ne te laisse pas distraire. Certainement, vous l'avez remarqué, mais chaque fois que vous voulez passer dans un temps pour Dieu, il y a un téléphone qui sonne, il y a une personne qui vous envoie des messages, et toujours cette personne qui vient vous parler une heure, deux heures. Quand tu travailles pour Dieu, tu travailles pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, travaille très bien. Cherche à faire les choses de façon excellente pour Dieu. Le cinquième conseil, ça serait que si tu veux un résultat différent, fais des choses différentes. Si tu reproduis toujours la même façon de faire, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes schémas, si tu reproduis toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Si tu fais, si tu mélanges de la farine avec de l'eau et de la levure, tu auras beau refaire 500 fois la recette, tu auras toujours de la pâte à pain. Si tu commences à ajouter des ingrédients, tu mets un peu de lait, des œufs, tu rajoutes un peu de sucre, un peu de vanille, des pépites de chocolat, un peu de crème, tu vas obtenir un bon gâteau. Un bon gâteau. C'est plus une pâte à pain, ça devient un bon gâteau. Pourquoi ? Parce que tu fais plus pareil. Tu rajoutes des ingrédients. Et ça, c'est bon. Et le sixième conseil, c'est un peu la suite du cinquième. C'est que, oui, c'est vrai qu'il y a des recettes qu'il ne faut pas garder, mais il y a aussi des bonnes recettes. Et les bonnes recettes, il faut les garder. Vous savez les recettes de grand-mère, les bonnes recettes, là, qu'il y a un secret de cuisine dans la recette. Donc ces recettes-là, il faut les garder. Si tu as des bonnes choses, si tu fais des bonnes choses, continue de faire les bonnes choses. S'il y a des choses qui marchent, s'il y a des choses qui produisent du fruit, continue de le faire. Et même améliore-les si on peut les améliorer. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les lépreux, ils n'avaient pas grand-chose. Mais le peu qu'ils avaient, ils le donnaient. Le peu de choses bonnes qu'ils avaient, ils le donnaient. Ils avaient des jambes, alors ils marchaient pour aller jusqu'à Jésus. Ils avaient encore une voix, alors ils criaient pour appeler Jésus. Ils avaient encore une foi, ils avaient vraiment une foi vivante et vraie, alors ils criaient à Jésus. Pourtant, c'était des rebuts de la société, ils étaient rejetés. Pour les autres, ils ne valaient rien. Mais le peu qu'ils avaient, ils l'ont utilisé, ils l'ont mis à profit pour aller vers Jésus. Donc, gardez les bonnes choses de votre vie et présentez-les à Jésus. Amen. Utilise la vie que tu as pour obtenir ce que tu n'as pas encore eu. C'est ça que te demande le Seigneur. J'ai un assistant ce matin et je vais l'appeler. Mon assistant, JB, si tu veux venir, vous pouvez l'applaudir. On va faire une petite expérience avec JB. J'espère que ça va marcher. Observez bien, surtout JB, c'est pas moi, la star c'est JB. Bon, JB, je crois que t'as pas compris la consigne. Donc, est-ce que tu pourrais enlever les mains de tes poches et coopérer un peu, s'il te plaît, parce que sinon on va pas y arriver. JB, est-ce que tu peux te concentrer, s'il te plaît? Parce que là, il y a quand même du monde devant nous. Je recommence? T'es prêt? Merci, JB. Il a fallu 3 fois, mais il est arrivé. Merci JB. Vous avez vu JB ? La première fois, il s'en fiche. Il a les mains dans les poches. J'ai beau être là avec mon ballon, lui, ça ne l'intéresse pas. Le ballon, il ne veut pas le recevoir. La deuxième fois, il accepte quand même de sortir les mains de ses poches, parce que je lui demande. Il accepte quand même de sortir les mains de ses poches, mais pff, il est tête en l'air. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Mais il ne me regarde pas à moi, alors que c'est moi qui ai le ballon. Et puis enfin, ben, merci JB, il a compris, il a coopéré. Il a préparé ses mains. Il a préparé ses mains à recevoir le ballon. Je lui ai lancé le ballon, il a reçu le ballon. Amen. Si tu veux saisir la bénédiction de Dieu, n'attends pas qu'elle tombe sur toi. Tu dois te préparer. Tu dois coopérer. Tu dois être prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. Si tu n'es pas prêt, si tu as les mains dans les poches, si tu t'en fiches, tu ne recevras pas. Si tu es tête en l'air, si tu es distrait, si tu regardes à d'autres choses, s'il y a d'autres centres d'intérêt pour toi dans ta vie, tu ne recevras pas non plus. Tu dois vraiment croire que Dieu peut opérer la bénédiction qu'il t'a promis. Si tu crois que tu vas te marier cette année, dis « je prépare le mariage ». Si tu crois que tu vas recevoir une naissance dans ta famille cette année, dis « je prépare la naissance ». Et commence à le faire. N'attends pas que ça arrive. Crois-le. Tends tes mains vers Dieu. Tends tes mains comme JB a tendu les mains vers le ballon, mais tends tes mains vers Dieu. Prenez le peu que vous avez. Le peu que vous avez. Même si vous dites « je n'ai rien », tu n'as pas rien, tu as Jésus. Même si tu penses que tu n'as rien, tu as Jésus. Même si tu penses que tu n'as rien, tu as cette foi de croire que Jésus peut changer ta vie. Même si tu crois que tu n'as rien, tu as toujours tes mains et tu peux toujours élever tes mains et tendre tes mains vers Dieu. Tu peux toujours le faire. Amen. Donc, ne te décourage pas. Et si tu crois malgré tout que ça ne peut pas marcher parce que tu n'as pas assez, parce que tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela, détrompe-toi. Il y a des prières que le Seigneur ne veut pas entendre. Exemple, Seigneur, si tu veux le faire, fais-le. Mais si tu ne veux pas le faire, je comprends, alors ne le fais pas. Non, celle-là, le Seigneur, il ne veut pas l'entendre. Ou des prières du genre, Seigneur, si tu ne le fais pas là, je laisse tomber. Celle-là, il ne veut pas l'entendre non plus. Ce n'était pas la prière des lépreux, ce n'était pas la prière de l'aveugle, ce n'était pas ces prières-là. Quand la femme syrophénicienne s'est approchée de Jésus, elle s'est sentie rejetée. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu ? Seigneur, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et le Seigneur a aimé cette parole. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu ? À cause de cette parole, va, ta fille est délivrée. Amen. Donc, si tu demandes une chose importante à Dieu, prie de tout ton cœur. Prie comme un lépreux. Prie de tout ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, cette chose est si importante pour moi que si tu ne la fais pas, je vais mourir. Voilà une prière que Dieu veut entendre. Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu tant que je n'aurai pas reçu ta bénédiction. Seigneur, je ne quitterai pas la prière tant que je n'aurai pas été délivré. Je ne rentrerai pas chez moi tant que tu ne m'auras pas béni. Voilà la prière que Dieu veut entendre. Et voilà la prière qui va tout changer dans ta vie. Cette prière-là peut tout changer dans ta vie. Ça, c'est une prière qui peut tout changer. Si c'est une prière qui vient de ton cœur, si c'est une prière qui vient de ta passion pour Dieu, si c'est une prière qui vient de ta passion pour le changement. Comprenez que nous demandons des choses grandes à Dieu, des choses qui nous paraissent impossibles. On appelle ça des miracles. Mais regardez comme c'est simple pour Dieu. Vous avez vu comment Jésus guérit simplement ? Comment Jésus guérit simplement les lépreux ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Va, sois pur. Va te montrer au sacrificateur. En un instant, il change une vie. La vie d'un homme qui était condamné par la lèpre, en un instant, Jésus la change. Amen. Donc ce que nous appelons un miracle, pour lui, c'est une chose très simple. Ce que nous appelons un miracle, pour lui, ça s'opère en un instant. En un instant, Jésus peut changer ta vie. En un instant. Comme en un instant, le diable peut te maudire aussi. Mais en un instant, Dieu peut changer ta vie. Et Dieu peut même le faire en la moitié d'un instant, ou même dans le dixième d'un instant. Dieu peut le faire. Amen. N'oublie pas que lorsque le Seigneur t'aura exaucé, ne fais pas comme les 9 lépreux qui sont partis, mais regarde plutôt le 10e qui est revenu. Il est revenu. Il est revenu vers le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit merci. Il a rendu grâce. Fais comme lui. Reviens vers le Seigneur pour lui rendre grâce, pour l'adorer et pour dire à tous, Dieu l'a fait. Mes frères, mes sœurs, décidez de changer et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je prie que cette parole prenne effet dans les cœurs. Je prie, Père éternel, que ce message prenne effet dans les vies, que chacune et chacun comprenne, que chacune et chacun saisisse ce qu'il doit faire pour vivre un changement profond, une nouveauté de vie qui vient de toi. Amen.